9h-10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Grand témoin de cette émission, la professeure Karine Lacombe, l'infectiologue de l'hôpital Saint-Antoine, auditionnée cette semaine par la mission d'enquête de l'Assemblée nationale. Avec elle, retour d'expérience sur cette crise et ses controverses scientifiques et médicales. Au générique également, Yann Lequin, le patron de la recherche en intelligence artificielle chez Facebook. Comment l'IA peut nous aider à surmonter l'épidémie? Enfin, Philippe Torreton et Richard Kolinka, l'acteur et le batteur, ils ont repris la scène, retrouvé les planches cette semaine pour une lecture musicale d'une série de textes sur la nature et notamment du grand chef Sioux Sitting Bull. Non, le théâtre n'est pas mort.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Karine Lacombe.
Bonjour.
Vous avez été l'une des voix et l'un des visages scientifiques de cette crise épidémique. Pour le meilleur, la pédagogie, le partage de connaissances sur cette maladie inconnue il y a 6 mois. Et pour le pire, les insultes ou les menaces que vous ont valu vos critiques des méthodes et des pratiques de Didier Raoult. Alors je voudrais d'abord que vous nous parliez de votre métier, comme vous l'avez fait en préambule de votre audition cette semaine à l'Assemblée nationale. Votre métier, c'est médecin, infectiologue ?
Oui, mais en fait, mon métier, il est triple. Il est avant tout de soigner. Effectivement, de soigner à l'hôpital, de soigner en ambulatoire, en hospitalisation. Je dirige également une équipe d'une centaine de personnes à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc, j'ai des fonctions de gestion. Et puis, comme je suis également rattachée à une université, j'enseigne et je fais de la recherche. C'est donc vraiment à tous ces titres-là que je suis intervenue pendant la crise sanitaire.
Donc, l'enseignement, la recherche et le soin, et c'est important de faire les trois.
Je pense que c'est indispensable parce qu'on se nourrit en fait, on nourrit notre réflexion sur la recherche par le contact que l'on a avec les patients, par l'observation, et puis ce que l'on apprend auprès des patients et par la recherche, eh bien on l'enseigne et on le transmet aux plus jeunes. Donc c'est vraiment indispensable.
Et votre spécialité, c'est donc les maladies infectieuses, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur le sida et les hépatites virales.
Exactement, qui sont mes domaines d'expertise initiaux.
Avec de l'expertise pour l'OMS, United, ONU-SIDA, vous l'avez dit, une centaine de personnes dans 20 services. Vous êtes PUPH, c'est ça,
oui.
Professeur des universités,
voilà.
Praticien hospitalier. Vous n'êtes pas très nombreuses à ce niveau de la médecine universitaire, pas très nombreuses. C'est un milieu encore largement masculin.
Ah, tout à fait. De toute façon, c'est vrai qu'on s'en rend compte dans les études de médecine. Par exemple, dans tout le premier, voire le deuxième cycle des études de médecine, on a principalement des femmes, à plus de 80%. Certains amphis sont à 80% féminisés. Et plus on monte dans la hiérarchie, eh bien on a en médecine, comme on a dans plein d'autres milieux, cette espèce de plafond de verre qui fait qu'il y a un moment où on retrouve beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, pendant cette crise, on l'a bien vu, il y a plusieurs rapports plusieurs enquêtes qui ont été faites. Il y a notamment un rapport qui est en train d'être préparé par Céline Calvez sur la représentation des femmes et des femmes médecins, entre autres, dans les médias. À l'occasion de cette crise, et on voit qu'on a été très peu nombreuses, alors qu'on est extrêmement nombreuses dans le soin, dans le care, et c'est la majorité d'entre nous, en fait, sont celles qui étaient à la base de tout ce qui a été fait pendant la crise, que ce soit à l'hôpital, mais aussi dans le secteur marchand, etc. Et pourtant, on a été extrêmement peu à nous exprimer.
C'est un milieu où demeurent encore quelques mandarin, notez que personne n'a jamais parlé de mandarine. Hein.
Non, alors c'est vrai que le milieu médical, alors heureusement de moins en moins, mais on a encore, oui, des attitudes de mandarina, c'est clair, et on en a eu quelques illustrations.
C'est quoi un mandarin? Ça se comporte comment?
Un mandarin, c'est quelqu'un qui, alors souvent un homme, malheureusement, et je me demande même, je n'ai même pas d'exemple de femme qui a eu un comportement de mandarin, il doit y en avoir, mais vraiment les hommes prédominent dans cette caste-là. Comme je vous disais, heureusement de moins en moins, les caractéristiques d'un mandarin, eh bien, c'est quelqu'un qui se croit absolument tout puissant, qui n'a aucune humilité, qui implique qu'on le suive aveuglément, qui est une espèce de gourou et qui peut en arriver à faire vivre de la maltraitance. Moi, j'ai vécu ce type de mandarina quand j'étais jeune, au tout début de mes études de médecine.
Et à Paris?
Ça peut laisser...
Non, à Grenoble?
Pas vraiment, oui, à Grenoble, exactement. Et ça peut laisser, quand on est étudiant en médecine, un sentiment de dévalorisation, de se demander si on est vraiment à notre place.
Ouais. Définition du Robert, je suis allé regarder. Personne d'un grand savoir et très puissante. Bon.
Exactement.
Venons-en à la crise du Covid, Karine Lacombe, pour vous, quel a été le déclic? À quel moment avez-vous pensé que ça pourrait être un événement épidémique majeur, comme il en arrive une fois par siècle?
Bien, je dirais vraiment dans la deuxième quinzaine de février. C'est-à-dire que jusqu'au 15 février environ, je me suis dit qu'on allait arriver à contrôler le virus comme on était arrivé à contrôler le SARS-CoV, qui était responsable en 2002-2003 de l'épidémie de pneumonie aiguë sévère. Et puis, à partir du moment où on a commencé à accumuler des connaissances, c'est-à-dire en particulier qu'on s'est aperçu que vraiment il se transmettait de façon importante entre personnes et qu'en plus, il pouvait se transmettre alors qu'on n'avait pas encore de symptômes, là, on s'est tous dit, oh là là, si le virus peut être transmis alors qu'il n'y a pas de symptômes, il va être très difficile d'isoler, d'identifier et d'isoler les personnes infectées. Et quand on a commencé à voir les cas qui arrivaient, en particulier en Italie, et puis le grand rassemblement religieux dans l'est de la France, là, on s'est dit que ça allait être extrêmement difficile à contrôler, qu'on était passé dans un autre niveau de l'infection, de l'épidémie, qui n'était plus le niveau 1 ou 2, mais qu'on allait très vite passer au niveau 3, c'est-à-dire une diffusion nationale du virus, en tout cas régionale.
La caractéristique déterminante, la singularité de ce virus et de cette maladie, c'est vraiment le fait d'avoir des asymptomatiques en nombre important et contagieux.
Tout à fait, et des études récentes qui ont été menées à Crépy-en-Valois, dont on vient juste d'avoir les résultats, montrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 17% de transmission par personne asymptomatique, qui est une proportion très importante, beaucoup plus importante que la grippe en particulier.
Et donc c'est là qu'est venue l'idée que cette maladie ne ressemblait à aucune autre, aux autres coronavirus, qu'on avait affaire à une infection respiratoire d'un nouveau genre.
Exactement. Un coronavirus qui ne se comporte pas comme les six autres coronavirus que l'on connaît, qui donne soit des rhumes banales pour les moins dangereux d'entre eux, soit des syndromes respiratoires graves, mais là aussi sans qu'il y ait de transmission avant l'expression des signes respiratoires.
Vous parlez de la deuxième quinzaine de février. Si on rembobine un peu le film, est-ce qu'il y a des alertes qui ont été ignorées, négligées, quand le 30 janvier, l'OMS déclare une urgence de santé publique internationale? Est-ce que ça suffisait pour déclencher une mobilisation générale, y compris dans des pays très loin de la Chine?
Déjà, je pense que l'OMS a tardé à reconnaître cette pandémie comme une urgence internationale. Je me rappelle en janvier avoir regardé tous les jours les conférences de presse de l'OMS et me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne déclarent pas cette pandémie comme une urgence internationale? Parce que quand on active ce système-là, ça active aussi beaucoup d'aide, un système de surveillance accru, etc. etc. Et je me suis toujours posé la question de la raison pour laquelle ça n'avait pas été déclenché plus tôt. Peut-être qu'à ce moment-là, on se serait alertés tous beaucoup plus vite. Donc, est-ce qu'il y avait des données? Est-ce que la Chine, et c'est pour ça qu'on est beaucoup revenu sur l'attitude de la Chine, est-ce que la Chine n'a pas essayé pendant longtemps de minimiser l'impact de cette épidémie, d'en minimiser les conséquences cliniques, diagnostiques, etc.? C'est vraiment une question à laquelle il va falloir qu'on arrive à répondre, surtout pour prévoir la suite.
Oui, mais enfin, 30 janvier, c'était très tôt. On connaît l'histoire à l'OMS. Didier Houssin, qui préside le comité d'experts, l'a raconté. Il y a eu une première réunion qui n'a pas abouti à un consensus scientifique et une deuxième une dizaine de jours plus tard, donc le 30 janvier, pour déclarer cette urgence. Le 30 janvier, c'était quand même assez tôt pour se préparer et se mobiliser, non?
Absolument. La séquence du virus a été découverte, en tout cas en France, les tests diagnostiques ont été mis au point dans la deuxième quinzaine de janvier. Et c'est probablement à ce moment-là qu'a commencé à émerger, enfin assez tôt dans le cours du mois de janvier, la problématique des masques, la problématique des tests, et en particulier que l'on n'avait pas assez de masques et qu'on allait avoir du mal à avoir assez de tests pour tout le monde. Et c'est à partir de là, quand on se rend compte que finalement, on n'est pas assez préparé, qu'on l'on essaie de mettre en place des actions pour répondre à l'épidémie qui arrive et évidemment, ce qui est beaucoup plus lent. Et en tout ce qui concerne le confinement, c'était très difficile de le mettre en place avant, parce que quand on n'a pas encore de cas symptomatiques qui s'expriment sur le territoire, imposer un confinement à des personnes alors qu'on n'a pas de cas, c'est compliqué.
Karine Lacombe, professeur Lacombe, invité de C'est arrivé demain, on poursuit cet entretien dans un instant.
Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec la professeure Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. On va passer en revue avec vous quelques critiques ou idées reçues sur l'action des médecins durant cette crise. D'abord, nous l'avons entendu mercredi, les médecins hospitaliers parisiens n'ont pas soigné, ils ont renvoyé chez eux les malades qui avaient des formes bénignes avec du doliprane et ils n'ont pas donné de traitement aux cas les plus sévères. Karine Lacombe.
Bah alors, que dire? À part que c'est pas parce qu'on assène avec virulence et avec et en gesticulant des certitudes qu'on veut faire passer pour des vérités que c'est vrai. Évidemment, non. Toutes les personnes qui ont eu besoin de soins ont eu des soins appropriés, à l'hôpital comme en ville. On a renvoyé chez eux les personnes qui avaient des signes bénins parce qu'ils pouvaient être suivis en ville par un système que l'on a mis en place dans tout le territoire francilien qui s'appelle Covidom. Ça a mobilisé un très grand nombre de soignants au téléphone qui ont suivi les personnes retournées à domicile. Ces personnes retournées à domicile ont eu les soins qui étaient appropriés. Alors peut-être qu'on reviendra sur l'histoire de la chloroquine. Évidemment, ils n'ont pas reçu de chloroquine et je pourrais y revenir. Et les personnes qui ont été hospitalisées, évidemment, ont reçu les soins dont ils avaient besoin.
Des traitements anti-inflammatoires.
Alors, au tout début du mois de mars, quand on se posait la question de l'efficacité de la chloroquine ou d'autres médicaments comme le lopinavir, ils ont reçu ces deux molécules. On s'est très vite aperçu, dès le 15 mars en gros, qu'il n'y avait aucune amélioration avec ces traitements. Ils ont donc reçu des anti-inflammatoires. Certains anti-inflammatoires ont marché, comme la dexaméthasone, dont on a ensuite montré qu'elle était significativement meilleure qu'une prise en charge standard, mais également les corticoïdes, mais également le tocilizumab, une de ces molécules anti-inflammatoires, dont on commence à voir émerger des résultats intéressants dans des études qui viennent d'être publiées. Donc non, évidemment, ils ont reçu les soins dont ils avaient besoin.
Et on n'a pas laissé à tort chez eux, à domicile, des malades dont l'état s'est dégradé et qu'il aurait fallu hospitaliser au début.
Non, certaines personnes sont rentrées à domicile et se sont dégradées et ont ensuite été hospitalisées. J'en ai par exemple eu beaucoup dans mon service en maladie infectieuse à Saint-Antoine.
Deuxième reproche, les tests. Tout le monde pouvait en faire, c'est d'une simplicité de bébé. On avait tous les moyens pour en fabriquer massivement. La preuve, à Marseille.
Alors justement, on peut revenir sur la façon dont le dépistage a été fait à Marseille. Le dépistage à Marseille était centralisé à l'IHU. La question de l'hôpital Nord, par exemple, s'est posée très rapidement. L'hôpital Nord, dans les quartiers nord de Marseille, n'avait pas de test. C'est-à-dire que les patients qui étaient à l'hôpital Nord ou dans les quartiers nord de Marseille devaient aller à l'IHU. Donc vous imaginez, pendant toute la période du confinement, combien ça peut être difficile de faire se déplacer massivement des personnes qui sont porteuses de symptômes vers l'IHU.
Donc, l'IHU n'a pas été généreux avec les centres
il fallait que les personnes se déplacent à l'IHU pour être dépisté. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? À un moment donné, cette situation n'était plus tenable. C'est donc Médecins Sans Frontières qui a ouvert des tentes de dépistage dans les quartiers nord pour offrir des capacités de dépistage aux personnes des quartiers nord. Donc, on peut se poser la question aussi de la façon dont les tests ont été gérés à Marseille. Donc, voyez, il faut faire extrêmement attention quand on annonce des chiffres, quand on annonce des vérités. Tant qu'on n'est pas allé sur le terrain voir comment ça se passe, on peut faire passer facilement pour des vérités, des choses qui ne le sont pas.
Il n'empêche qu'un grand nombre, un très grand nombre de tests ont été effectués à l'IHU, à Marseille, beaucoup
plus
que...
Tests oui. Bien sûr, mais d'où viennent ces tests? Pourquoi est-ce qu'ailleurs on n'en avait pas?
Pourquoi
on en avait à Marseille? Il faut y apporter une réponse.
Et vous avez des réponses?
Je n'ai pas de réponse que je peux donner ici à l'antenne, mais je pense que c'est une question qui va être extrêmement importante à laquelle répondre. Parce que s'il y avait autant de tests à Marseille, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu sur le territoire français une solidarité et que ces nombreux tests à Marseille puissent effectivement être disponibles pour le reste du territoire français?
Les tests marseillais, c'était des produits maison? C'était des produits
Alors les tests marseillais étaient effectivement une PCR,
exactement.
Et donc, c'est vraiment dommage s'il était aussi facile de fabriquer autant de tests que le reste du territoire français n'ait pas pu en bénéficier.
Troisième reproche ou idée reçue, il y a eu une faillite médicale ou une faillite de la recherche médicale. Les scientifiques ont passé leur temps à se disputer et à étaler leurs désaccords et ils n'ont pas été fichus de dire quel traitement était efficace ou pas.
Alors, je pense que le désaccord, il n'y a eu qu'un seul désaccord. Hein, c'était sur l'efficacité ou pas de la chloroquine. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'autres débats en fait, dans la communauté scientifique, en particulier en termes de thérapeutique. On a eu des gros essais qui ont été plutôt très, très solidaires sur le territoire national, comme Discovery, par exemple. Il y a eu en Ile-de-France un gros essai qui s'appelle Corps Immuno, qui, lui, testait plutôt des anti-inflammatoires et qui a été très solidaire sur toute la communauté scientifique francilienne. Et il y a ensuite eu plusieurs essais, dont des essais avec l'hydroxychloroquine, par exemple Icovid, qui était promu par par Angers et à laquelle nous à Paris nous avons participé. Donc non, vraiment, il y a eu ce ne sont pas tous les médecins qui ont passé leur temps à s'accrocher les uns les autres. Ça a été la communauté marseillaise menée par le professeur Raoult et le reste des scientifiques.
La communauté scientifique, vous diriez qu'elle a été globalement solidaire, qu'elle a coopéré et tiré dans le même sens avec quelques dissidents,
oui, avec
des dissidents qui ont fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà. Mais ça, c'est enfin, on revient tout le temps à la même chose, c'est-à-dire que on entend surtout ceux qui font du bruit, mais qui ne sont pas forcément ceux qui détiennent la vérité.
La recherche, elle s'est pas dispersée dans un éparpillement inefficace. Il n'y a pas eu trop d'essais cliniques en même temps sur les mêmes traitements.
Alors, il y a eu beaucoup d'essais cliniques. C'est vrai qu'en France, la recherche est libre. À partir du moment où vous suivez les règles éthiques telles qu'elles sont édictées et que vous trouvez les financements pour mener votre projet de recherche, vous pouvez mettre en place votre projet de recherche. Peut-être qu'à l'avenir, quand on a une pandémie de cette ampleur-là, et surtout une pandémie dans laquelle il faut aller vite, il faudra une meilleure coordination centrale de la recherche et qu'il y ait peut-être non pas de multiples voies explorées, même si scientifiquement c'est passionnant, mais se concentrer dans un nombre plus restreint de voies de façon à limiter, de façon plutôt à concentrer les forces de recherche dans certains axes prioritaires.
Autre idée reçue, ou en tout cas accusation, ça a été entendu mercredi dans la bouche de Didier Raoult, vous tous qui disiez que l'hydroxychloroquine n'avait pas fait la preuve de son efficacité, vous avez promu un traitement concurrent et beaucoup plus cher, le remdesivir.
Alors c'est ce que le professeur Raoult a dit, oui. Évidemment sans preuve, comme toujours. Depuis le début de cette épidémie, le professeur Raoult assène des vérités, tout le temps sans preuve. Non, personne n'a promu un médicament plus qu'un autre. Lui a promu l'hydroxychloroquine plus que le reste. Et nous avons dit, l'hypothèse de départ d'un essai thérapeutique, c'est qu'on peut avoir plusieurs options thérapeutiques, on veut savoir laquelle est la meilleure. Il y a donc eu l'essai Discovery, dans laquelle le remdesivir était une des options thérapeutiques possibles.
Il n'a pas été
parmi
promu.
Pas spécialement été promu, pas plus que d'autres. Et d'ailleurs, on a des résultats préliminaires, justement, parce qu'on s'est intéressé à cette molécule au même titre que les autres, qu'on peut dire actuellement lesquelles marchent, lesquelles ne marchent pas. Et on va voir ensuite ce qui va en rester à la fin de la course.
Professeur Karine Lacombe, on marque une nouvelle pause. Et on poursuit, on va aborder cette question sensible des liens d'intérêt entre les médecins et les laboratoires pharmaceutiques.
Europe 1. Comme chaque dimanche, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain.
Avec la professeure Karine Lacombe, médecin infectiologue, dont la parole a été contestée, pour ne pas dire plus, à cause de, Karine Lacombe, de vos liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques. En clair, vous avez participé à des conférences ou des expertises rémunérées par Bristol-Myers, Gilead ou Merck. À quoi ça sert? Est-ce que ça revient à ce que les journalistes appellent des ménages dans un but purement lucratif, ou est-ce que ça a un intérêt professionnel?
Alors effectivement, certaines de ces prestations pourraient passer pour des ménages. C'est à nous, les professionnels et scientifiques, de faire la part entre ce qui pourrait relever de ménage et ce qui peut relever d'un véritable intérêt scientifique. Pour ma part, j'ai toujours fait attention, quand j'ai accepté ce type de prestations, à ce que ça serve soit mon intérêt scientifique, parce que, par exemple, j'avais besoin de partager des informations sur des médicaments qui allaient être, qui étaient en développement, ou alors pour faire partager mon expertise, en particulier avec des collègues plus jeunes, des collègues moins formés parce que ce ne sont pas des spécialistes en infectiologie, de façon à pouvoir promouvoir la connaissance et tisser des réseaux de professionnels dans la discipline, que ce soit en maladie infectieuse ou en hépatologie, puisque je travaille aussi beaucoup sur les hépatites virales. Je pense que c'est de notre responsabilité à nous, quand on choisit de faire ce type de prestation, de choisir celles qui ont un intérêt.
Et par ailleurs, il y a un lien direct entre des nouvelles molécules qui sont mises au point par des laboratoires et le domaine qui est le vôtre, des traitements qui font avancer le...
Eh bien, oui, bien sûr. Par exemple, dans le domaine du VIH ou des hépatites virales, il y a ces dernières années des médicaments absolument innovants qui ont été élaborés par les laboratoires. Et toute l'innovation et le regard critique sur cette innovation ne peut se faire qu'avec des médecins comme moi qui soignent des malades, ou des médecins comme moi qui sommes au laboratoire ou qui manipulons des grandes bases de données de façon à ce que le médicament soit développé pour être au plus près des besoins des malades. Sans ce contact entre les laboratoires et les médecins praticiens, eh bien, il peut y avoir une déconnexion complète entre ce que le laboratoire pense être bon et ce que nous, médecins, savons être bon pour les patients qu'on soigne. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que, ces liens d'intérêt soient divers et non pas concentrés sur un seul laboratoire. Et ensuite, que ces liens d'intérêt soient complètement encadrés, et ce qui est le cas avec la loi de 2017 anti-cadeaux.
Et transparent, puisqu'on a...
Et absolument transparent, ça c'est fondamental.
La liste complète. Le procès que fait Didier Raoult à l'ensemble des médecins-chercheurs qui ont contesté la pertinence ou l'efficacité de l'hydroxychloroquine à cause de leurs liens avec d'autres laboratoires, parce qu'ils étaient... sous influence, dit-il, ça a un sens ?
Non, mais ça n'a aucun sens. De toute façon, ce procès d'intention, il a été fait à partir du moment où on a commencé à porter un regard méthodologique sur la façon dont les essais ont été faits. Non pas sur l'hydroxychloroquine, non pas sur le professeur Raoult lui-même, mais sur la façon dont il montrait l'efficacité de l'hydroxychloroquine. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à agiter le chiffon rouge comme un matador des liens d'intérêt, d'ailleurs, qui ont été confondus avec des conflits d'intérêts. Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts ? Par exemple, l'IHU a un conseil d'administration. Certains médecins, dont je ne donnerai pas les noms, mais qui sont bien connus, font partie du conseil d'administration. Ces médecins se sont posés en faveur de l'hydroxychloroquine sans preuve scientifique. Là, on peut se dire, est-ce que ça, ce n'est pas un conflit d'intérêts ?
Alors, venons-en à la méthode, puisque vous venez d'en parler. C'est d'ailleurs le seul moment où Didier Raoult est sorti de ses gonds mercredi à la toute fin de son audition sur une question du député médecin généticien Philippe Berta qui lui a demandé pourquoi il n'avait pas produit d'essais randomisés contrôlés, en anglais RCT, sur l'hydroxychloroquine. Ouais. Et s'était contenté d'une étude aussi médiocre, celle de Mars, avec au final seulement 6 patients dans le bras hydroxychloroquine et azithromycine. La réponse très énervée du professeur Raoult.
Je suis désolé que vous n'ayez pas mon essai. Moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a toutes les bases d'un essai, de la seule manière de faire des essais, qui est de faire des essais comparatifs et d'avoir une différence significative. Et contrairement à ce que vous dites, et ça, alors là, je m'excuse, mais alors c'est une erreur radicale, moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Quand vous avez 10 000 personnes, vous êtes obligé d'avoir 10 000 personnes dans un essai pour monter une significativité, c'est qu'il n'y a aucune différence. Parce que je vais vous dire, il y a 15% des gens qui ne prennent même pas les médicaments qu'on leur prescrit. Donc tout essai qui comporte plus de 1000 personnes est un essai qui cherche à démontrer des choses qui n'existent pas. Et je suis désolé, c'est une base de la statistique. Et je vous assure que je suis un très bon méthodologiste. Donc c'est du fantasme qu'on répète à tour de bras, qui est véhiculé par des gens qui sont des méthodologistes qui ne comprennent rien à la science. Donc il ne faut pas me dire que mes essais ne sont pas, parce que vous avez dit avant, et c'est vrai, je suis un grand scientifique, je sais ce qu'est un essai, et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de référence médicaux. Et celui-là, il sera aussi.
Votre commentaire, Karine Lacombe.
Pareil, on est dans le surjeu, dans l'esbrouf, quand on voit qu'on est incapable d'expliquer calmement ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait comme ça, qu'on est obligé de hausser le ton, de vouloir en imposer et de se mettre à gesticuler, à taper sur la table, à taper sur le petit bouton du micro, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais sur le fond, c'est...
Mais c'est complètement faux. Sur le fond, effectivement, quand on pense que le traitement n'a pas beaucoup d'effet, pour montrer qu'il fait quand même mieux que rien du tout, il faut beaucoup de patients. Quand un médicament a beaucoup d'effet, pour montrer, en comparaison à rien, qu'il y a de l'effet, on a besoin de peu de patients. Le problème ici, c'est qu'il y a peu de patients, même pas comparés à un groupe où on pourrait voir la différence. Et ces patients sont triés. Ces patients ne sont pas pris au hasard, ces patients sont triés. Pour avoir beaucoup discuté avec beaucoup de collègues de Marseille, on sait comment ça a été fait. C'est-à-dire que les patients qui avaient peu de symptômes ont été traités, ceux qui avaient beaucoup de symptômes n'ont pas été traités. Parce qu'en traitant ceux qui avaient beaucoup de symptômes, on pouvait prendre le risque qu'ils ne guérissent pas et donc de montrer que finalement, ça ne marchait pas.
Donc, c'est
donc
pas
il n'y a
science.
Pas d'honnêteté derrière la façon dont les essais ont été faits.
Ça va laisser des traces dans le milieu de la recherche médicale ?
Je pense que ça va laisser la trace de ce qu'il ne faut pas faire en matière de recherche clinique. Exactement.
Merci beaucoup, professeur Karine Lacombe, pour ce long entretien. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
L'intelligence artificielle, Yann Lequin, le patron de la recherche chez Facebook, avec nous dans un instant.
Europe 1.
C'est arrivé demain, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Bonjour Yann Lequin.
Bonjour.
Vous êtes l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et du deep learning, l'apprentissage profond, professeur à New York University et patron de la recherche fondamentale chez Facebook. Vous faites partie de ceux qui considèrent que l'intelligence artificielle rendra demain le monde meilleur. Est-ce que vous admettez tout de même d'abord que l'IA, l'intelligence artificielle, n'a pas joué un grand rôle dans la bataille mondiale contre le Covid?
Alors, elle a joué un rôle, peut-être pas un rôle très important. La bataille du Covid était moins un problème de science, de technologie et de statistiques qu'un problème de prise de décision, de préparation et de mentalité et de culture. Il y a eu beaucoup de travaux quand même utilisant l'intelligence artificielle pour combattre le Covid, pour prédire la propagation de l'épidémie, pour analyser des images, par exemple des radios, des poumons, pour déterminer le type de pneumonie qu'on observe, et puis des travaux à plus long terme sur l'élaboration de vaccins ou d'anticorps monoclonaux pour combattre la maladie directement. Mais ça, ce ne sont pas des résultats qui vont apparaître très rapidement, ça va prendre des mois ou peut-être même des années.
Oui, parce que dans votre livre « Quand la machine apprend » chez Odile Jacob, vous nous disiez que c'est dans le domaine médical que l'IA va nous rendre le plus de services.
Oui, en particulier dans l'analyse de radio, bien sûr, mais surtout d'IRM, de CAT scan et autres types d'images qui sont en fait un petit peu difficiles à interpréter pour les médecins. Donc il y a beaucoup de systèmes expérimentaux qui donnent d'excellents résultats sur l'analyse d'images médicales. Certains ont été déployés, mais bien sûr, ça prend du temps parce qu'il faut passer par toutes les autorisations de mise sur le marché, etc. Mais expérimentalement, en tout cas, les résultats sont très impressionnants.
Oui, vos travaux ont permis cela, la reconnaissance des tumeurs, mais aussi la reconnaissance faciale avec toutes les dérives possibles dans l'espace public. Il faut que les sociétés, les pouvoirs publics mettent des garde-fous.
Oui, absolument. Bien sûr, toute technologie peut être utilisée à des fins bénéfiques ou moins bénéfiques, disons, ou même maléfiques dans certains cas. On voit ça, bien sûr, avec les techniques de reconnaissance d'image, comme vous le dites, qui peuvent réduire les collisions sur les routes, qui peuvent détecter des tumeurs dans les images, mais aussi qui peuvent permettre à certains gouvernements autoritaires d'espionner leur population ou de les contrôler d'une manière qui serait inacceptable pour des démocraties libérales comme la France. Alors oui, il faut des réglementations pour protéger la vie privée des gens, mais ces réglementations existent déjà d'une certaine manière. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'elles sont appliquées.
Qu'avez-vous pensé, Yann Lequin, de nos débats sur les applications de traçage numérique, sur cet arbitrage difficile entre santé et protection des données personnelles ?
Alors, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, la sécurité informatique, mais il y a des méthodes de cryptographie qui permettent de tracer les gens tout en préservant le caractère privé de l'endroit où ils se déplacent, à condition que les données ne soient pas centralisées, qu'elles soient encryptées, que les gens soient alertés, etc. Donc il y a eu tout un tas de propositions venant principalement de laboratoires universitaires. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'on permet à ces applications d'être délocalisées et encryptées, c'est-à-dire de ne pas centraliser l'information ? Ou est-ce qu'au niveau d'un gouvernement, on insiste pour avoir accès à toute l'information? Et là, c'est là que sont les débats de protection de la vie privée.
En quoi l'IA peut nous aider à limiter nos émissions de CO2 et à maîtriser le réchauffement climatique?
Il y a beaucoup de travaux sur l'utilisation de l'IA pour rendre plus efficaces les systèmes existants de production d'énergie ou pour même permettre de faire des progrès sur des nouveaux systèmes de production d'énergie comme par exemple l'énergie de nouveaux types de centrales nucléaires ou même la fusion qui est toujours des projets de recherche à long terme, mais par exemple des techniques qui permettent de contrôler les instabilités de plasma qui sont mises en cause dans les centrales à fusion expérimentales pour l'instant.
Et en matière d'information, de sélection et de filtrage d'information, ça nous intéresse beaucoup évidemment. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parmi ce qu'on voit, il y a les deepfakes, ces vidéos manipulées qui font dire n'importe quoi à n'importe qui. Ça aussi, c'est le produit de l'intelligence artificielle, non ?
Oui, donc ça utilise des techniques de synthèse d'images qui utilisent effectivement les mêmes techniques d'apprentissage qui sont utilisées pour la reconnaissance d'images ou des techniques très similaires. Alors, effectivement, on peut faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit avec sa propre voix et animer son visage de manière à ce que ce soit réaliste. C'est quand même relativement facile à détecter, c'est-à-dire que la technologie n'est pas au point où c'est devenu indétectable. Il y a des projets, en particulier à Facebook, mais dans d'autres laboratoires, de détection automatique avec analyse d'image, bien sûr, de ces deepfakes. Ça marche relativement bien. Facebook a même publié un jeu de données qui permet aux chercheurs universitaires de par le monde d'aider en fait à détecter ces deepfakes. Ceci dit, le problème ne semble pas être aussi aigu qu'on a bien voulu le dire, c'est-à-dire que les gens qui voudraient utiliser les deepfakes à des fins d'influence d'élection, par exemple, ne le font pas beaucoup, à cause du fait que ça ne marche pas très bien. Les gens sont devenus très sceptiques en fait, de ce qu'ils voient un peu sur l'Internet. Donc, ce n'est pas très utilisé, à vrai dire.
Mais en tout cas, vous nous dites que ce sont les mêmes techniques qui fabriquent les deepfakes et aussi qui permettent de les identifier, de les démasquer.
Oui, alors il y a quelque chose d'amusant, c'est que les techniques de production de deepfakes, en fait, utilisent deux systèmes d'apprentissage, deux réseaux de neurones profonds, un qui produit l'image et un autre qui juge si l'image est bonne ou pas. Et donc, ce deuxième système qui juge de la qualité de l'image, en fait, peut être utilisé pour détecter le deepfake lui-même.
Yann Lequin, vous pensez toujours que l'intelligence artificielle va nous aider à rendre le monde meilleur et à surmonter cette crise ?
Oui, alors bien sûr, l'intelligence artificielle est utilisée dans les systèmes de communication, de téléprésence, de communication vidéo, etc. Donc, il y a des systèmes maintenant des espèces de caméras intelligentes qui vous suivent, donc vous n'avez pas besoin de rester en face d'une caméra, vous pouvez vous promener dans votre pièce, et puis une espèce d'opérateur de caméra intelligent qui vous suit, qui zoome si vous êtes loin, etc. Donc ce genre de choses, par exemple, est dans les systèmes de visioconférence produits par Facebook qui s'appelle Portal. Et on le voit de plus en plus aussi pour la substitution de fond d'écran, qui pour l'instant est très primitive, mais qui va faire des progrès. Et puis à terme, la téléprésence, les environnements virtuels, dans lesquels on pourra avoir l'impression d'être présent dans la même pièce que d'autres personnes. Et ça va faire des progrès assez fulgurants dans les années qui viennent. Et puis aussi pour ce qu'on appelle les lunettes de réalité augmentée qui nous permettront d'afficher des informations sur nos écrans superposés sur le monde réel et nous servir d'aide-mémoire, etc. Donc beaucoup de progrès dans les années à venir qui vont nous aider à nous connecter au reste du monde.
Merci Yann Lequin, responsable de la recherche en intelligence artificielle chez Facebook. Je rappelle votre livre paru il y a 6 mois chez Odile Jacob, « Quand la machine apprend ». Merci à vous.
Merci, toujours un plaisir de parler avec vous.
Europe 1.
Dans un instant, retour sur scène pour Philippe Torreton et Richard Kolinka.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour Patrick Cohen.
Les salles de cinéma ont rouvert cette semaine. Le redémarrage est timide, mais les gens reviennent, environ 500 000 spectateurs. Les théâtres ont recommencé à programmer. La vie culturelle reprend doucement, trop doucement.
Il faut être prudent, mais il faut être clair sur les consignes, sur ce que les gens peuvent faire ou pas. Et puis, il faut inciter les gens à y aller. Il faut aussi permettre des plans B aux gens qui se poseraient la question d'y aller ou pas. Moi, j'avais proposé au ministre de faire un système de mécénat individuel. C'est-à-dire qu'une personne qui se pose la question, qui aimerait aller au spectacle et qui n'ose pas y aller, pourrait éventuellement acheter les billets et les donner à quelqu'un de son entourage pour inciter. Donc à la fois mécène et prescripteur. Et puis à charge pour le théâtre de l'inviter un peu plus tard quand la situation lui semblera plus saine. Et je trouve que ce serait bien de faire ça. Ça permettrait de créer du lien entre ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le connaissent pas, de faire découvrir à des gens que le théâtre, ce n'est pas un endroit où on s'ennuie pendant 3 heures. Il y a des choses passionnantes qui s'y disent. Donc éventuellement, peut-être renouveler le public. C'est une idée qui a le mérite d'être toute simple, de ne pas faire appel au gouvernement pour avoir des sous. C'est juste une sorte d'entraide, comme ça, entre aficionados du théâtre et ceux qui ne le connaissent pas.
Et puis, on pourrait imaginer des événements de plein air. On peut avoir des regrets pour des festivals qui ont été annulés, alors que ça aurait pu... on aurait pu avoir un été un peu plus culturel.
Exactement, on a été un peu vite en besogne. Je crois qu'on a... Alors, je ne sais pas si c'est de la pression sur les uns, sur les autres, ou si c'est plutôt un côté bon élève qu'ont eu certains directeurs d'institutions d'en faire des caisses pour
prudence,
plaire aux tutelles.
Ouais.
Une prudence, oui, mais je pense qu'il aurait été urgent d'attendre. Voilà. De dire, si on doit fermer, on ferme. De toute façon, on n'est pas des kamikazes de la culture, on ne va pas infecter les gens. Mais d'attendre. Parce que c'est quand même... J'ai rien contre le Puy du Fou, mais c'est quand même bizarre que le Puy du Fou existe et pas Avignon. Enfin, C'est juste dire, il est peut-être trop tôt en avril pour décider si Avignon sera fermé en juillet.
Vous, vous avez retrouvé les planches, les vraies planches, mardi dernier dans la salle Jacques Brel de Fontenay-sous-Bois pour un spectacle dont on va parler dans une minute face à une centaine de spectateurs. C'était comment ?
Ah, c'était émouvant. Au moment des applaudissements, je me suis dit, finalement, c'est bon, les applaudissements. Parce qu'avec Richard, on a fait pas mal de choses grâce à mon épouse qui filmait ça et qui mettait sur ses réseaux sociaux ces petites vidéos qui ont été vachement partagées. Mais ça ne remplace pas un public physique devant soi. Et puis en plus, ce qui était agréable, c'est que le maire a non seulement nous a permis, Jean-Philippe Gauthier nous a permis de jouer dans cette salle, de créer le spectacle ici à Fontenay, parce qu'on est avec Richard, Aristide et moi, on est trois comédiens musiciens de Fontenay. Et lui en a profité pour remercier le personnel qui a œuvré pendant le confinement. Donc il y avait des gens qui...
C'était des agents qui s'étaient impliqués pendant la crise du Covid, qui étaient invités au spectacle.
Donc, et personne d'autre. Du coup, ça a entraîné un public qui sort assez peu. En cas de sortie, il ne serait certainement pas venu voir un spectacle comme ça. Donc, ça prouve bien que parfois, quand on déclenche les choses, il y a quelque chose qui se passe.
Des vrais gens avec de vrais applaudissements, sans les écrans qui s'interposent entre vous et le public. Votre complice de scène et de confinement est en ligne avec nous. Bonjour Richard Kolenka.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Ces retrouvailles avec la scène et avec le public depuis votre batterie, vous les avez ressenties comment ?
Ben voilà, j'avais l'impression de revivre. Comme dit Philippe, rien ne remplace la vérité de la scène. C'était extraordinaire. C'était de se retrouver sur scène, ça a été, mais en plus avec Philippe, qui est vraiment, pour moi, c'est le Mick Jagger des mots. Il est... Ça a été, mais c'est un émerveillement. Pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est ça, là. Notre président nous dit, il faut se réinventer. Non, mais il croit qu'on l'a attendu pour se réinventer. C'est ça, l'art. On se réinvente tout le temps. Et la preuve, c'est qu'il y a plein de moyens de faire de l'art. Et pour moi, c'est... je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. Quoi. Je vais jouer dans les écoles, je vais jouer dans les prisons, je vais jouer dans les hôpitaux et je n'ai pas attendu l'année 2020 pour me dire « Ah bah tiens, il faut que je le fasse ». Non, non, ça on le sait, mais ce n'est pas notre métier ça. Ça on le fait en plus.
Alors sur scène, dans la bouche, dans la voix de Mick Jagger, de Philippe Torreton, des textes pas tout jeunes et bien plus anciens encore que Mick Jagger, mais terriblement d'actualité, des textes qui parlent de nature, notamment ceux de Sitting Bull, le grand chef Sioux. Vous avez passé une bonne partie du confinement, Philippe Torreton, avec Sitting Bull.
Ah oui, mais bien avant le confinement. Moi, je suis un passionné des Indiens d'Amérique du Nord, de toutes les tribus, de l'organisation de la vie. Et la réalité de ce monde des Indiens est beaucoup plus extraordinaire, évidemment, que ce qu'en ont retenu les westerns. Ce sont tous, sauf des sauvages, vivant dans une nature sauvage. Ils avaient domestiqué la nature, mais comme nous, on devrait le faire, c'est-à-dire avec une préemption prudente des choses, avec un respect total. Il y avait une organisation quasi démocratique, les femmes avaient un pouvoir énorme. On a beaucoup de leçons à tirer de la culture indienne. Ou de ce qu'il en reste, parce que
le début de la lettre de Sitting Bull au président Cleveland. Magnifique. Ça donne quoi, Philippe Torreton ?
L'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante. Car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. Et quand il l'a conquise, il va plus loin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi.
Ça, quand tu te prends ça en pleine gueule... Ça te fait réfléchir quand même.
Et Richard Kolenka, sur ce texte, vous avez imaginé des percussions, des rythmes qui sont un peu d'inspiration amérindienne.
Là, je ne vais rien divulguer, mais justement sur le texte...
Moi, je vous ai vu à cheval, quasiment à califourchon sur votre mur mitoyen, hein, et en faisant des percussions sur sur le lierre, sur le mur, sur votre poitrine, sur votre tête. Voilà, c'était ça c'est ça que j'avais dans l'oreille en écoutant Philippe il y a un instant.
Oui, mais vous voyez ce qu'il me fait faire. Il me rend fou, ce mec. Il y a des moments où on laisse la parole sans l'accompagner. Et puis, il y a d'autres moments où on intervient. Mais c'est vrai que cette lettre, elle pourrait être écrite aujourd'hui pour le président Trump. C'est incroyable. Cette sagesse et cette poésie qu'avait ce chef indien, et pas que lui d'ailleurs. Et d'ailleurs, grâce à Philippe, j'ai découvert des poètes incroyables. Je ne savais pas que Ronsard avait écrit sur un bûcheron qui massacre une forêt parce qu'un roi a voulu partir en guerre et qu'il fallait construire des bateaux.
Pourquoi ce titre, Philippe Torreton, « Nous y voilà » ? Nous y voilà à quoi ?
C'est le début du texte de Fred Vargas qu'elle avait diffusé sur Mediapart et puis qui a été repris après. Notamment, il y a Charlotte Gainsbourg qui l'avait illustré. Nous y voilà, nous y sommes, depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes, dans le mur au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire, avec brio qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Et telle notre bonne vieille cigale, à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance, nous avons chanté, dansé, etc. Et là, ça fait partie des textes qu'on dit vraiment, toute proportion gardée, mais moi j'ai Gilles Scott-Heron en tête, enfin de cette façon comme ça, ce rythme de la parole, et là, c'est un grand moment de Richard qui fait une rythmique d'enfer avec Aristide. Il y a quelques pointes comme ça, très électro, rock, et ça permet d'alterner plein de choses, quoi. Mais on s'est dit que le titre du spectacle était « Nous y voilà » parce que c'est... Parce qu'effectivement, j'ai écrit un texte d'ailleurs que je dis dans le spectacle qui s'appelle « L'homme averti ». Et nous avons été avertis, depuis toujours, depuis longtemps,
oui.
Par des peuples entiers dont certaines peuplades ont disparu même. Parce qu'il n'y a pas que la biodiversité humaine disparaît aussi. Les cultures disparaissent. On a tendance à devenir une sorte de moyenne d'humanité. Et les langues disparaissent. Et donc, on a été avertis, depuis toujours, depuis la nuit des temps. Je crois que c'est à la fois effrayant et rassurant de se dire que l'être humain, finalement, n'a pas tellement changé. La preuve, Ronsard qui dit « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ?» Et voilà, il s'insurgeait contre le fait qu'on rasait les forêts au XVIe siècle.
Eh ben, il faut aller voir le résultat, ce que je n'ai pas encore fait. Ce sera dans quelques jours, le 4 juillet à Meaux, ensuite à Saint-Étienne les 6 et 7 juillet, mais je crois qu'il y a une troisième date.
6-7-8,
bravo.
Et le metteur en scène Arnaud Meunier a décidé aussi, en accord avec la ville, d'offrir ses représentations au personnel qui a œuvré, personnel soignant et municipal.
Et puis, on espère des programmations ensuite un peu partout et dans une scène parisienne.
Ce serait chouette.
À la rentrée. Ouais. Il faudrait.
Ouais.
On va surveiller ça. Merci beaucoup, Richard Koninka.
Merci beaucoup, Patrick.
Au téléphone, comme il se doit.
C'est original.
Oui, pardon. Merci. Merci à vous, Philippe Torreton.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Europe 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain à 9h pour C'est arrivé cette semaine.